Calico de s'avancer. Pendant qu'ils seront en train de s'avancer pour nous lire les textes du jour, je vais aussi conduire la lecture dans les Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Je vais commencer par le 11e verset jusqu'au 15e. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville des districts de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous passions, que se trouvait un lien de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle était baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez ici. Et elle nous prépare. Elle nous pressa. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez. Et elle nous pressa par ses instances. Parole du Seigneur. Nous allons aussi écouter la lecture de la sœur Aline, puis de maman Rebecca.
Lisons la parole de Dieu dans Juges, chapitre 4, du 1er au 8e verset. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Eud fut mort. Et l'Éternel le vendit entre les mains de Jabin, roi de Cana, qui régnait à Hathor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Aroshet Goïm. Les enfants d'Israël crirent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh Nephtali, et elle lui dit: n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kishon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit: si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas.
Lisons la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 4, du 8e au 17e verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Une autre fois, Élisée était passé par le village de Shunem. Il y avait là une femme riche qui avait insisté pour qu'il vienne prendre un repas chez elle. C'est pourquoi depuis ce jour, Élisée allait toujours manger chez elle quand il passait dans cette région. Cette femme dit à son mari: « Je suis sûre que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint prophète de Dieu. » Nous devrions construire une petite chambre à l'étage supérieur de la maison et y mettre pour lui un lit, une table, un siège et une lampe. Il pourrait loger là quand il passe chez nous. C'est ainsi qu'un jour Élisée vint chez ces gens et monta dans la petite chambre pour y passer la nuit. Puis il dit à son serviteur, Géasi, d'aller chercher la maîtresse de maison. Lorsque celle-ci se présenta devant la chambre, Élisée chargea Géasi de lui dire, « Tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Peut-on intervenir en ta faveur auprès du roi ou du chef de l'armée? » « Non, merci, » répondit-elle. « Au milieu de mon peuple, je ne manque de rien. » Élisée dit alors à Géasi, « Que faire pour elle ?»« Eh bien, » répondit Géasi, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. « Rappelle-la donc, » dit Élisée. Lorsqu'elle se présenta sur le pas de la porte, Élisée lui déclara, « L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Mais elle s'écria, « C'est impossible. Toi qui es prophète des dieux, ne me dis pas un mensonge. » Cependant, cette femme devint enceinte, et à la même époque, l'année suivante, elle mit au monde un fils, conformément à ce qu'Élisée lui avait annoncé, parole du Seigneur.
Je vous prie d'étendre le micro à maman José Kamba, qu'elle remette l'intervenante entre les mains du Seigneur.
Dieu, nous sommes devant ta face, te dire merci. C'est toi qui as créé l'état et tu nous as donné cet état pour écouter ta parole. C'est pour cela, Seigneur, que nous prions pour la prédicatrice du jour. Bénis-la, donne-la la parole pour nous bénir.
Que la grâce de notre Seigneur soit avec nous tous. Nous bénissons notre Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde ce matin, pour qu'ensemble nous puissions partager sa parole. Nous voulons remercier les pasteurs responsables de la paroisse avec tout son consistoire pour la confiance, mais aussi pour l'invitation. Nous remercions aussi les mamans de la paroisse Goma Ouest qui m'ont accepté dans les cercles des mamans de cette paroisse. Et nous bénissons aussi notre Dieu pour cette semaine qui était riche en enseignements, mais aussi en action de grâce pour tout ce que le Seigneur fait pour nous. Avant d'entrer dans le vif de notre message du jour, j'aimerais aussi vous donner les salutations de mon mari qui est à Kinshasa. Je lui ai parlé de l'expérience que j'ai vécue durant toute cette semaine ici à la paroisse Goma Ouest. Il était content et il m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Et cet avant-midi, nous allons parler autour du thème « Les profils du disciple engagé et combatif pour honorer Dieu et plaire aux hommes ». Durant la semaine, nous avons eu beaucoup d'enseignements autour de certaines femmes qui ont marqué l'histoire. Et entre autres, nous avons parlé d'Abigaël. Cette femme qui a fait le plaidoyer en faveur de sa maison, en faveur de David, cette femme qui a su apaiser la colère de David et a fait taire l'épée qui voulait anéantir tout son foyer, toute sa maison, si on peut le dire. Cette femme a privilégié beaucoup plus la réconciliation et elle a fait un plaidoyer qui n'a pas exposé qui que ce soit, Elle a gagné et elle a apaisé la colère de la part de David, mais aussi elle a sauvé sa famille. Il y a la deuxième femme, c'est la prophétesse Hulda, qui a été fidèle dans la transmission de la volonté de Dieu. Et l'oratrice du jour nous a interpellés à être fidèles et à transmettre la volonté de Dieu telle qu'elle nous est présentée et ne pas y ajouter ni y retrancher quelque chose. La troisième femme, c'était la femme Tsunamite, et nous venons de suivre même la lecture. Cette femme était modèle et elle nous a inspiré de la façon dont elle a honoré Dieu à travers ses serviteurs. Élisée passait souvent dans le village où elle était. Elle a eu la grâce d'approcher Élisée, pas seulement de l'approcher pour lui donner à manger, mais elle a demandé à son mari s'il pouvait construire une chambre pour que Élisée y passe la nuit. À travers cette hospitalité, Dieu a ouvert les portes de bénédiction dans la vie de cette femme. La quatrième femme, c'est Esther. Quand son peuple était dans une situation très difficile, quand il y avait l'épée de la mort et les complots et les lois établies qui étaient déjà mises en place pour exterminer son peuple, au départ, Esther a douté, mais avec l'aide de Mardoché, elle a pris le courage et elle a associé Dieu à cette situation à travers le jeûne de 3 jours. Elle est intervenante, nous a interpellés à avoir le temps de prier pour nos familles, pour nos églises, pour notre nation et pour les situations qui nous tourmentent. Parce qu'à travers la prière, Dieu est capable de changer des choses. Et même les lois établies, Dieu est capable de les anéantir. Et même l'épée qui plane sur nous, Dieu est capable de faire taire cette épée-là. La cinquième femme, c'est Lydie. C'est une étrangère, mais quand elle a écouté la parole de Dieu, cette parole-là a créé une foi en elle. Elle ne s'est pas seulement limitée à écouter et à se réjouir de cette foi qu'elle a eue envers Dieu, mais cette foi a créé quelque chose en elle. Et c'est quelque chose, c'était soutenir le ministère de Dieu. À travers sa maison, elle a ouvert les portes de sa maison pour que l'évangile puisse naître à travers elle et à travers sa maison. Et elle a impacté la partie Europe dans le christianisme. Et la dernière femme, c'était Marie, la sœur de Lazare. Cette femme a ouvert son parfum de grande valeur pour oindre le pied de Jésus en signe de reconnaissance de tous les bienfaits que l'Éternel a fait dans sa vie, dans sa famille et dans son parcours. Et l'intervenante nous a interpellés aussi à avoir cette attitude de reconnaissance et de gratitude pour tous les merveilles que l'Éternel ne cesse de faire dans notre jour de tous les jours. Amen. En bref, c'est ce que nous avons eu durant toute la semaine. Et aujourd'hui, on retourne à notre thème, le profil du disciple engagé et combatif pour honorer Dieu et plaire aux hommes. Il y a certains termes qu'on aimerait un peu définir ou bien attirer l'attention sur cela. Le premier, c'est le profil. Le profil, en d'autres termes, nous pouvons dire ce sont les caractéristiques ou bien les marques qui déterminent une personne ou bien qui déterminent quelqu'un. Les disciples, c'est quelqu'un qui est choisi par un maître et qui marche dans les pas de son maître. C'est un modèle qui retransmet ce que son maître lui a donné. Alors, quand on parle des disciples, nous tous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes les disciples de Jésus. Dans notre vie de chaque jour, nous devons manifester les traits de Christ en nous. Nous devons suivre les pas de Christ en nous et nous devons porter les marques de Christ en nous pour que le royaume de Dieu puisse rayonner dans ce monde où nous vivons momentanément. Engagé. Le terme engagé, c'est s'impliquer ou s'appliquer, être actif, sans contrainte, ou alors être actif sans saison. C'est-à-dire que quand tout va bien, on est actif. Quand tout va mal, on est actif. Dans l'abondance, on est actif. Dans la disette, on est actif et on est engagé jusqu'au bout. Combatif, ça sous-entend celui qui lutte, car la vie chrétienne est un combat de tous les jours. En tant que disciples de Christ, nous devons savoir que nous sommes engagés dans un combat jusqu'à ce que Christ viendra prendre son Église. Et ce combat-là, ça peut changer de forme, ça peut prendre de l'ampleur, mais dans tout cela, que nous puissions avoir foi, que nous combattons, non pas pour nous, mais nous combattons dans la victoire que Christ nous a accordée sur la croix. Alors, le profil du disciple engagé combatif pour honorer Dieu et plaire aux hommes, pour quelle finalité? On s'engage, oui. On combat, oui. Pour quelle finalité? Dans tout ce que nous faisons, la grande finalité, c'est honorer Dieu. Et quand on honore Dieu, on plaît aux hommes. Quand on honore Dieu, Dieu nous traite avec faveur devant ceux-là qui nous entourent. Notre engagement, notre maturité, notre dévouement, notre service, tous les efforts que nous fournissons doivent honorer notre Dieu. En d'autres termes, nous ne devons pas avoir une parcelle dans notre vie qui honore Dieu et une autre parcelle où nous-mêmes on s'honore ou bien on se dirige. Nous devons laisser Christ prendre le dessus de tout et nous diriger dans tout. Ainsi, cet honneur lui reviendra pour toujours. Cette femme Déborah, dans la deuxième lecture, qui est dans Juges 4, le verset 1 jusqu'à 8, nous parle de Déborah. Qui est Déborah? D'abord, le nom Déborah signifie abeille. Le nom Déborah signifie abeille. Et dans les recherches, on nous a dit que l'abeille souvent n'attaque pas. Mais l'abeille se défend quand elle sent qu'elle est attaquée. Qui est Déborah? Cette Déborah a trois caractéristiques. La première, elle est épouse de Lapidote. La deuxième, elle est prophétesse qui parle de la part de Dieu. Troisième, elle est juge en Israël. Trois grandes responsabilités. En tant qu'épouse, en tant que prophétesse qui parle de la part de Dieu, mais aussi en tant que juge. Et le juge en Israël, à cette époque-là, avait trois rôles. Le premier rôle, c'était de veiller sur le bien-être du peuple. Et le deuxième rôle, c'était rétablir les droits. Et le troisième rôle, c'était intervenir dans les domaines politiques, militaires et spirituels. Cette épouse, qui avait des responsabilités comme épouse à côté de son mari, elle est aussi la bouche autorisée de Dieu à cette époque-là, mais aussi elle devait siéger pour dire les droits sans parti pris. Elle devait veiller à ce que les droits soient établis équitablement, mais aussi elle devait intervenir quand tout n'allait pas bien. Trois grandes responsabilités. Elle est parvenue à réussir à toutes ces trois grandes responsabilités parce qu'elle a su planifier, mais aussi s'associer à Dieu. Qui est Déborah? On continue toujours à décrire d'abord Déborah. On ne dit pas si elle avait eu des enfants. On ne dit pas ça. Mais elle est la quatrième, elle est juge numéro 4 parmi les 15 qui ont dirigé Israël pendant un moment. Il y a eu 15 juges qui ont dirigé Israël et elle était la quatrième. Elle a agi avec Barak quand le roi Yabin et Sisera ont attaqué le peuple d'Israël. Et pendant cette attaque, parmi les recherches, Israël, pendant l'année 1300 jusqu'à 1000, Israël a connu 6 vagues d'esclavagisme. Et c'est à la troisième vague d'esclavagisme qui a duré 20 ans que Déborah et Barak ont agi comme juges en Israël. Elle est appelée par Dieu pour une mission précise, transmettre la volonté ou bien les plans de Dieu à son peuple. Cette femme travaille pendant que le peuple est plongé dans une infidélité à outrance. On dit que Israël, après la mort de Ehud, et juste après la mort d'abord de Josué, Israël a commencé à se mécompromettre. Israël s'est plongé dans une infidélité qui n'a pas plu à Dieu. Et quand on parle de l'infidélité, il y a ce qu'on dit, le non-respect d'engagement. On dit que telle personne est infidèle quand la personne ne respecte pas l'engagement qu'il a fait. On dit qu'une personne est infidèle quand la personne ne respecte pas les principes ou alors la personne va à l'encontre de la volonté de Dieu ou de la personne avec qui ils ont fait alliance. Et Israël est arrivé à ce niveau-là d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu et à l'encontre du non-respect des engagements et d'aller s'associer avec d'autres dieux. Et la parole de Dieu que nous avons lue dans Juges 4, elle dit que Dieu était fâché de la situation d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a vendu Israël. Que notre Dieu nous aide. Dieu qui est le secours et la protection, quand il est dans la colère à cause du mauvais comportement, il nous vend. Quand Dieu vend quelqu'un, qui peut être avocat de cette autre personne? Personne. Dieu est arrivé au niveau où il a vendu Israël. Et ce matin, Dieu aimerait nous dire ceci. Il y a des comportements que nous avons qui font à ce que même si nous prions, nos prières ne seront pas exaucées. Et il y a des portes qui ne peuvent pas s'ouvrir à cause de la prière, mais juste à cause d'un bon comportement. Un comportement d'un disciple. Parce que les mauvais comportements peuvent fermer les portes aux bénédictions et peuvent éloigner Dieu de notre parcours. Alors c'est dans cette ambiance-là que Dieu a vendu Israël. Et quand Dieu a vendu Israël au roi Yabin de Cana, le peuple d'Israël a souffert atrocement. Il y a eu des violences. Et quand j'étais en train de lire cette histoire de Déborah, je me suis rendu compte de la situation que nous traversons aujourd'hui au Congo. Il y a eu des atrocités, il y a eu des violences, il y a eu des déplacements. Les gens étaient devenus esclaves. Il n'y avait plus de paix, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien qui pouvait réjouir le peuple d'Israël. Mais gloire au Seigneur, malgré cette infidélité d'Israël, il y a toujours un reste. Et dans ce reste-là, Déborah et Barak se sont retrouvés dans le reste. Et cela est ma prière pour vous et pour moi. Quelle que soit la situation du changement du monde dans lequel nous nous trouvons, que nous soyons parmi les restes qui sera capable de rallumer encore le feu pour les changements et ramener encore le royaume de Dieu au milieu de son peuple. Et c'est ce que Déborah était ce feu-là et Barak. Alors, quand maintenant Dieu a parlé à Déborah pour lui dire qu'il a écouté les cris du peuple d'Israël, Déborah juge, Barak juge, mais Déborah siégeait sur les palmiers de Déborah, c'est elle qui envoie quelqu'un aller appeler Barak. Alléluia. J'aimerais que nous puissions aussi insister là. Barak était juge au même niveau que Déborah. Et Barak était un homme et Déborah était une femme. Et dans la culture juive, les femmes n'étaient pas tellement considérées. Mais c'est cette femme-là qui devient la bouche de l'Éternel et qui fait envoyer le message vers Barak pour que Barak vienne là où elle était. Si Barak était orgueilleux, il allait dire que je ne peux pas y aller. Elle est juge comme moi. Qu'elle fasse ses affaires et que je fasse aussi le mien. Mais Barak a obéi. Pourquoi Barak a obéi? c'est à cause du comportement de Déborah. Déborah s'est fait respecter, Déborah s'est fait considérer à travers les services qu'elle rendait au peuple. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Juges 4 que les gens venaient de loin pour écouter la sagesse de qui? De Déborah. Et je peux dire comme les Bangala disent, Pesanzo tonayo kilo. Pesa musala nayo kilo. C'est-à-dire, donne-toi le respect. Quand tu te respectes et tu fais respecter ce que tu fais pour Dieu, les autres aussi vont te respecter. Mais si on ne se respecte pas, on peut beau chanter, les gens ne vont pas nous respecter. Parce que le premier ou la première personne à se faire respecter, c'est d'abord toi-même qui porte cette vision-là. Et Déborah s'est fait respecter et s'est fait accepter par tout le monde. Comme le thème nous le dit, un profil du disciple engagé, combatif pour honorer Dieu et plaire aux hommes. Quand Déborah a honoré Dieu par son comportement, par sa façon d'agir, par sa façon de lire les droits, par sa façon d'amener tout le monde ensemble, cela a fait à ce qu'elle a plu aux hommes. Et c'est comme ça que Barak est venu écouter ce que Déborah avait à lui dire. Dans la communauté ou bien dans la société où nous sommes, tant qu'on ne se respecte pas et on ne travaille pas en complémentarité, les efforts risquent d'être vains. Mais quand on travaille dans la complémentarité, les efforts vont donner un écho qui va amener les changements. Barak, quand il arrive là où il y a Déborah, la façon dont Déborah a parlé à Barak, ça sous-entend que Barak savait que Dieu avait déjà donné l'ordre qu'il puisse attaquer. Parce que Déborah lui dit, n'est-ce pas l'ordre que l'Éternel a donné? C'est comme si Barak avait l'ordre, mais il a gardé silence. Ou alors il a douté. Ou alors il a eu peur. Alors Barak va humblement répondre à Déborah, si tu vas, j'irai aussi. Et si tu ne pars pas avec nous, je n'irai pas. Si tel est notre cas aujourd'hui, nous savons que tout le monde dépend de nous. Et Dieu parle à travers nous. Quelle serait notre attitude? Déborah n'a pas méprisé Barak. Déborah n'a pas dit, vous voyez ces hommes ici, ils se disent qu'ils sont hommes, mais aujourd'hui ils ont peur d'aller au front. Ils commencent à dire que j'aille avec lui. Déborah n'a pas tenu ce langage-là. Mais Déborah a au contraire encouragé Barak pour lui dire, c'est le moment. C'est le moment de faire quoi? D'avancer. Un disciple qui est engagé, qui est combatif, c'est celui-là qui connaît encourager les autres, même si lui a une grandeur par rapport aux autres, mais il sait encourager avec des mots qu'il faut. Et c'est ce que Déborah a fait avec Barak. À part l'encouragement, Déborah avait une intimité avec Dieu. Pour écouter la voix de Dieu, il faut avoir une intimité avec Dieu. Dans la prière, avoir un temps spécial, comme Habakkuk le dit, je me tiendrai à la brèche, ni tasima makonye munara, ili nisikie, nini mungu atafanya nini, ataniambia. Il y a d'autres guerres, on n'a pas besoin d'aller dans les réseaux sociaux, mais on a besoin d'aller à la brèche pour écouter qu'est-ce que Dieu veut qu'on puisse faire, pour qu'on puisse tracer les plans de guerre, non pas selon les hommes, mais selon le royaume de Dieu. Et cette femme avait une intimité de Dieu, avec Dieu, et cette intimité a permis qu'elle a écouté attentivement, avec précision, l'ordre de Dieu. Et c'est pourquoi, sans peur, elle n'a pas dit à Barak d'aller en face, mais elle a dit à Barak de monter sur la colline de Tabor. Le plan de guerre, tous on n'ira pas à la guerre physiquement, mais tous on ira à la guerre spirituellement. Déborah avait eu le plan de la guerre avant que la guerre ne puisse avoir lieu. Et que Dieu nous aide aussi à avoir le plan de guerre de notre nation avant même que nos militaires s'engagent. Que Dieu nous oriente, ils doivent passer par où? Et à travers nos prières, lui qui crée le pouvoir et le vouloir, fera quelque chose à travers ceux-là qui dirigent la guerre. Deux fois, ils y vont, hein, un peu en désordre, et il n'y a que des échecs et des échecs et des échecs. Je suis l'épouse d'un militaire. Mon mari fut le porte-parole de la 8e région militaire dans les années 2012. Je sais ce que ça fait quand les militaires vont au front et quand il y a échec. Deux fois, il revenait à la maison, il ne pouvait pas manger. Deux fois, il faisait des cauchemars. Deux fois, il n'avait pas la paix. Il était trop inquiet. Et cela nous affectait tous dans la maison. Et quand je lisais l'histoire de Déborah, j'ai compris réellement qu'est-ce que Déborah a fait comme rôle dans son peuple, dans son pays. Et Dieu aimerait que nous puissions suivre les pas de Déborah pour soutenir notre pays. Troisième chose, la bravoure de Déborah et la foi de Déborah a donné la victoire au peuple d'Israël. Comment ça? Quand l'armée est allée sur terrain, tout le monde avait les regards tournés vers Déborah. Je m'imagine, à ce moment-là, il n'y avait pas de pantalon peut-être. Elle avait une robe, peut-être une tunique avec des foulards, tout ça. Et marchait dans le sable. Même la marche n'était pas facile. Mais la parole de Dieu nous dit, cette femme avait une bravoure exceptionnelle. Elle a pris les devants. Elle n'a pas regardé sa féminité, mais elle a regardé l'ordre de Dieu en elle. Ne te sous-estime pas. Si tu as une promesse et la parole de Dieu, que tu sois homme ou femme, ne te sous-estime pas. Que tu aies des diplômes ou pas, ne te sous-estime pas. Accroche-toi à cette vision-là de Dieu et avance. La victoire sera certaine. Cette femme a rassuré Barak. Elle a orienté et elle a donné les plans. Elle s'est élevée comme une mère. C'est ce que la parole de Dieu dit. Déborah s'est élevée comme une mère. Bien qu'on n'a pas dit qu'elle avait des enfants, mais elle s'est élevée comme une mère. Pourquoi? À cause de la compassion. Tant qu'on n'a pas la compassion de la situation qui nous tourmente dans notre famille, dans notre quartier, dans notre province, tant qu'on n'a pas ce cœur de mère, même si on est homme, mais que Dieu crée ce cœur de mère, parce qu'une mère est capable de donner sa vie pour le salut de son enfant. Déborah s'est levée comme une mère et a pris le devant de l'armée comme une mère. Elle était pleine de confiance et de courage envers Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens, nous prions, mais on n'a pas confiance envers Dieu. On termine de prier et nous-mêmes encore nous disons, « Atuye kama bita wezekana. Imoya. Atuye kama bita pita anamuna gani. Batubenye habana. » Nous, on n'a plus confiance, mais Déborah, elle avait la confiance. Que Dieu crée en nous la confiance. Nous avons des enfants aujourd'hui, l'enfant va à l'école, il rentre, il n'a même pas confiance que quand il va terminer, si les autres n'ont pas eu du travail, lui aura. Parce que là, c'est Dieu-là qui planifie son avenir pendant qu'il étudie. On commence à dire un pays où il n'y a pas du travail. Il n'y a pas du travail pour ceux-là qui n'ont pas confiance en Dieu. Mais pour les élus de Dieu, il y en aura. Il y en aura. Cette femme est partie avec la confiance et le courage en Dieu. Elle a dit, si les autres ont peur, mais moi j'irai. À travers ma confiance en moi, envers ces dieux-là, les autres suivront les pas de ma confiance. Que Dieu fasse de nous les meneurs et que les autres puissent suivre les pas là où nous passons. Cette femme, à travers son intégrité et la qualité de ses services, elle fut une référence, nous l'avons déjà dit. Elle fut une référence, mais aussi, au moment où elle allait à la guerre, elle était aussi conseillère. Que Dieu place des paroles, des conseils dans nos bouches quand nous encourageons les autres. L'épée est devant eux, mais elle conseille aux autres. Avançons, Dieu va agir avec nous. Barak, tu n'as pas peur, nous devons avancer avec. Cette femme, un autre trait de cette femme, elle est patriotique, patriote, pleine de certitude que son pays ne sera pas sous les mains de l'ennemi. Malgré que 20 ans d'esclavagisme, elle savait que comme elle s'élève ce jour-là, cet esclavagisme-là va finir. Je suis arrivé à Goma en 93, on fouillait la guerre. Depuis 93, aujourd'hui nous sommes en 2022, presque 29 ans. C'est toujours fuir, c'est toujours fuir. On a fui au Katanga, nous sommes venus ici. Nous sommes arrivés à Afdel en 96, 97 est venu. Guerre de libération RCD en 98 ou 2000 est venu. Les guerres de libération, tout ça, les attaques des groupes armés avec 2012, 2008. J'ai des enfants. Des fois, quand ils réagissent à la maison, je me dis, Seigneur, est-ce que ce n'est pas l'effet de la guerre? L'un, je l'ai eu en 2008 quand Laurent Kunda a attaqué. Et c'est sous les balles que j'étais en train d'accoucher cet enfant-là. Et le deuxième, c'est quand M23 va entrer. Trois jours après l'entrée de M23, le second est venu. Alors moi, j'ai toujours dit, Seigneur, mes enfants ne connaîtront jamais la paix. Et c'est ça la situation dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, les enfants connaissent plus les violences à la place de la paix. Les enfants connaissent plus les tribalismes et les séparations à la place de l'unité. Les gens savent plus l'hypocrisie parce que tu ne sais pas en qui tu te confies à la place d'être ouvert. C'est ça l'image dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais Déborah nous donne espoir cet avant-midi. En tant que patriote, allons avec la certitude que cette situation prendra fin. Et cette situation devra prendre fin, non pas après notre mort, elle doit prendre fin de notre vivant. Parce que nous sommes les disciples de Christ vivant. Et il nous dit d'avancer avec lui. Et dans les profils qui nous attachent à lui, c'est là où il dit, rien ne peut résister à nous. Avec cela, nous avons foi que notre Dieu va agir et va changer la situation de ce pays. Israël, c'était 20 ans. Nous, c'est maintenant presque 25, 29 ans. Ce n'est pas le nombre d'années, mais c'est la détermination et la foi qui changent les choses. Si eux, leur situation a changé, ce Dieu-là n'a pas changé. Il est aujourd'hui et éternellement. Il nous appelle à être juste ses disciples, que nous puissions suivre ses pas, et lui-même va diriger les combats et va nous accorder la victoire. Une autre chose qui m'a plu, c'est l'écho des actes de Déborah. Cette femme a envoyé un écho. Vous savez, il y a des échos que nous envoyons qui peuvent donner la force à l'ennemi, tout comme ça peut faire à ce que la force de l'ennemi se termine. Il y a Jaël qui a tué Sisera, était l'épouse d'un allié du roi Yabin. C'est-à-dire, quand Déborah s'est tenue debout pour aller combattre avec Israël, l'écho des actes de Déborah ont traversé même les frontières. Ceux-là qui s'étaient alliés contre Israël, l'épouse des alliés d'Israël, c'est cette femme-là qui va tuer Sisera. Et c'est ce que nous allons demander aussi à Dieu. Là où il y a les alliés qui s'assoient autour de la table pour fragiliser le Congo, là même que Dieu envoie une Jaël pour détourner leur plan et réaliser notre plan. Vraiment, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Je croyais que Jaël était une juive. Elle était dans la contrée de ceux-là qui se sont alliés avec Yabin pour attaquer qui? Israël. Et quand Sisera est arrivé chez Jaël, son mari n'était pas là. Son mari était sorti. Et c'est comme ça que Jaël a profité. Vous voyez le plan de Dieu. Qu'il enlève sur nos chemins les gens qui peuvent nous empêcher à agir. Et qu'il laisse sur nos chemins les gens qui vont coaliser avec nous pour le changement de notre situation. Pas seulement pour la nation, même pour nos familles. Nous avons des situations dont nous avons besoin que les gens viennent s'associer à nous pour que nous puissions avoir la solution. Que dans cette paroisse de Goma Ouest, Dieu amène des Jaël sur nos chemins. Que Dieu amène les gens qui vont s'associer à nous pour que nos familles, l'éducation de nos enfants, nos ministères puissent aller de l'avant. Une autre chose, c'est la prise des risques. Cette femme a pris les risques. Elle était épouse, mais elle a pris les risques de laisser son mari. Elle a pris les risques de laisser son confort pour aller sur le terrain de bataille. À un certain moment, nous sommes appelés à laisser le confort et aller dans le terrain de bataille. Le confort, c'est ce qui nous dit, Batakoufia Toukoule, ce sont les familles des militaires qui vont souffrir. C'est l'histoire des politiciens, c'est l'histoire des sénateurs, c'est l'histoire de l'armée. Nous, on va bâtir à nos occupations. Non, non. Cette situation nous concerne tous. Quittons le confort, allons sur le terrain des batailles. Prenons les risques pour nos familles. Aujourd'hui, le monde est ce qu'il est. Les mères se sont corrompues. Si nous restons dans le confort pour dire Dunia itabashauria, Dunia hayazalaka, manake Dunia itabashauria. Et le monde ne peut donner rien de meilleur. Celui qui peut donner le meilleur, c'est Christ. Ne disons pas Dunia itabashauria. Disons, je m'en vais sur le terrain de bataille parce que cet homme, c'est mon homme. Cette femme, c'est ma femme. Ces enfants, ce sont mes enfants. Ntaenda ku terrain, nipigane vita, sababu Dunia haikunipatia abo. Alléluia. La deuxième femme, c'est la Tsunamite dans 2 Rois 4. Cette femme, on dit que c'était une femme de distinction. Mais dans son rang, elle avait des yeux qui pouvaient lire, comprendre un message non dit. Élisée passait dans ce voyage, dans ce village-là. Élisée n'avait pas où passer la nuit, mais il avait un message de Dieu. Cette femme-là a eu la capacité de voir les besoins qui sont dans Élisée. Et c'est pourquoi elle n'a pas travaillé seule. Elle a associé son mari. Est-ce qu'on ne peut pas faire une petite chambre pour l'homme de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui peuvent passer juste chez vous. Et c'est vous qui allez voir les besoins qui tourmentent cette personne-là. Et si tu te rends compte de ces besoins-là, c'est-à-dire que c'est par toi que Dieu aimerait agir dans la vie de cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu. Beaucoup de gens voyaient Élisée, mais c'est cette femme de distinction. Et quand elle a vu le besoin d'Élisée, elle a construit la maison pour Élisée. En d'autres termes, nous pouvons dire quoi? La Tsunamite nous appelle à soutenir les serviteurs de Dieu avec tout ce que nous pouvons avoir, en commençant d'abord par la prière. Si vous avez un problème ici à l'église, vous partez voir le pasteur, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se pose la question, si le pasteur a un problème, il va où? Ça, ce n'est pas notre problème. Le pasteur est là. Je suis malade, il doit venir visiter. J'ai un problème, il doit venir prier. J'ai ceci, il doit être là. S'il envoie quelqu'un, vous voyez, il envoie tel, parce que moi je suis. Les critiques commencent, les lamentations commencent. Mais est-ce qu'on se pose la question, lui aussi, quand il est en besoin, parce que c'est un être humain, quand il a besoin d'être réconforté, il va où? Sur quelle épaule le pasteur va pleurer? Sur quelle épaule? Vous voyez qu'ils n'ont pas de problème? Ils en ont aussi. Vous voyez que leur cœur ne fait pas mal? Ça fait aussi mal. Vous croyez qu'ils n'ont pas besoin de réconfort? Ils en ont besoin. Mais très souvent, si on nous dit ici de critiquer nos serviteurs, on aura beaucoup de choses à dire. Il ne fait pas, il ne fait pas, il ne fait pas, il ne fait pas, il ne fait pas. Mais si on dit maintenant, disons le bien, on commence à le dire avec tâton. Il a fait ça parce que. La Tsunamite, elle n'a pas vu tout ça. Elle a eu le temps juste de dire à son mari qu'il puisse soutenir l'œuvre du Seigneur. Et durant la semaine, et nous reprenons ce que l'oratrice de la semaine avait dit, en commençant par la prière, ayons le temps de prier pour les serviteurs de Dieu que Dieu a mis à notre disposition. Ayons le temps de prier pour leurs épouses, ayons le temps de prier pour leurs enfants. Facilement, nous pouvons dire que non, les femmes des pasteurs sont compliquées, sont dures. Combien de fois as-tu prié pour cette femme-là? Oh, les enfants des pasteurs Ce sont des Shindikana. Combien de fois tu as prié pour ces enfants du pasteur? Combien de fois tu as conseillé ces enfants? Combien de fois tu as approché cette femme-là pour comprendre les souffrances de cette femme-là? Il y a un livre que j'aimerais que beaucoup de mamans lisent. C'est la femme de Dalo qui a écrit ça. Les souffrances des femmes de serviteurs. Quand j'ai lu ce livre-là, j'ai changé un peu le langage envers les épouses des pasteurs. Elles ont des poids qu'elles portent aussi. Elles ont des défis. Peut-être que ce ne sont même pas les défis de l'église, mais de la belle famille qui les tourmente. Et ça change leur attitude. Quand tu arrives, tu ne sais pas si elles pleuraient, mais tu aimerais qu'elles puissent sourire pendant qu'elles venaient de pleurer. On exige trop parce qu'on n'est pas dans cette peau-là. Mais si on entre dans cette peau-là, on comprendra d'autres choses et le langage changera. Que notre Dieu nous aide à soutenir à travers nos prières, à travers nos encouragements, même juste dire merci. Il arrive des fois, on n'a même pas besoin de beaucoup de choses. Quand le pasteur termine de faire quelque chose ou bien il organise quelque chose, juste venir dire, pasteur, tu as bien fait. La maman qui a témoigné ici, quand elle disait, j'ai senti quelque chose, elle traversait mon corps. D'autres personnes n'ont même pas le temps de venir dire, pasteur, ulifanya muzuri kupanga mupango. Ça va bouler mupango, tu me ona matokeo. Non, non. Pasteur, là où nous sommes allés, ici dans ce monde, il y a des choses. On ne vient qu'avec des lamentations et des critiques. Il n'y a pas de merci. Que Dieu nous change et nous aide. Au lieu de se lamenter, qu'on vient dire merci, ça encourage. À part ça, si on a des biens, on peut soutenir les serviteurs de Dieu. Même si vous avez peu, soutenez les serviteurs de Dieu. Peut-être qu'il avait besoin de ça. La maman qui nous avait enseigné dans la semaine, elle a dit, même l'allumette, peut-être qu'elle manque 200 francs pour acheter une allumette. Et tu as 5 paquets d'allumettes, amène 7 paquets d'allumettes-là. C'est tout ce que tu avais. Donne. Elle sera contente et elle va bénir l'Éternel pour ça. La tsunamite nous apprend cela. Mais au-delà de son hospitalité, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu 3 choses. Elle a eu un fils. Elle a expérimenté la résurrection d'un enfant mort. Et elle a été restaurée pendant les 7 ans qui étaient de sécheresse. Tu es stérile pendant des années. Dieu te donne un seul enfant. Quand tu jouis de la présence de cet enfant, l'enfant meurt. Cette femme a expérimenté. Il y a des choses qui sont mortes dans nos vies à cause de notre égoïsme. Soyons hospitaliers. Nous allons voir la résurrection des grandes dimensions dans nos vies. Cette femme a... Et avant de fuir, c'est l'homme de Dieu qui est venu lui dire, il y a la sécheresse qui va frapper à la porte. Et ça, c'est dans Juge 8. Quitte ton pays, va quelque part. Elle va quitter le pays pour aller quelque part. 2 fois, notre nourriture, ça peut être même le foufou seulement. Ça peut amener les serviteurs de Dieu à te donner des grands secrets qui peuvent te sauver dans la vie. Cette femme est allée pendant 7 années. Et quand elle est rentrée, elle a trouvé qu'on avait presque tout pris. C'est Géaz qui était avec Élisée. Que cette femme va trouver en train de parler avec le roi. Cette femme-là était comme ça. Cette femme-là était comme ça. Que nos comportements, nos actes, notre gratitude, notre amour parlent plus fort à notre... Quand Géaz parlait au roi, quand il a tourné directement, il a vu la tsunamite entrer. Il dit au roi, c'est de cette femme dont je t'ai parlé. Qu'en notre absence, les gens parlent mieux de nous. Qu'en notre absence, que nos actes parlent mieux à notre place. Et le roi va demander à la femme, explique-moi ce qui s'était passé. Je ne sais pas dans quel terme, mais la parole de Dieu nous dit dans Juge 8, le roi a dit, retournez-lui les productions de son champ pendant 7 ans. Et les intérêts que son champ a produits. Et tout ça, retournons cela. Dieu combattra quand nous aussi nous saurons combattre pour lui à travers ses serviteurs qui sont à notre charge. La troisième femme, c'est Lydie. Cette femme écoutait la parole de Dieu, ça se trouve dans Actes. Elle avait le temps d'écouter la parole de Dieu. Et en écoutant la parole de Dieu, elle a cru en Dieu, une étrangère. Elle a demandé à Paul, si vous me considérez comme fidèle parmi vous, acceptez de venir vers moi, dans ma maison, venez manger, mais aussi que l'église commence dans ma maison. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On a le temps d'écouter la parole de Dieu combien de fois? Il y a ceux-là, c'est l'image qu'on amène les Bibles à l'église. Et quand on quitte l'église, c'est fini. Il n'y a pas de programme de prière, on ne lit pas la Bible. Il n'y a pas de programme de veillée, on n'a pas le temps d'écouter la Bible. Pourtant, plus on écoute la parole de Dieu, plus Dieu nous oriente, plus Dieu nous parle, plus Dieu te dit, à ce niveau, il y a quelque chose que tu dois faire. Le ministère de Paul a été soutenu par cette femme Lydie. Et l'église a commencé dans sa maison. Il y a beaucoup de ministères qui sont au milieu des gens qui ont juste besoin de ton soutien. Ça peut être un soutien juste de conseils, un soutien de techniques, un soutien juste d'un cadre. Et le ministère va se développer de soi. Parce que celui qui fait développer le ministère, c'est qui? C'est le maître du champ. Nous, nous devons juste être obéissants et laisser Dieu agir. Cette femme a ouvert la porte de sa maison et l'évangile, le christianisme s'est développé. Ouvrons les portes de nos maisons, ouvrons les portes de nos connaissances. On peut avoir des connaissances et on sait qu'avec ça, si je donne mon point de vue, ça va marcher. J'avais un directeur, paix à son âme, le révérend Moussa. Il aimait toujours me dire, Marie-Jeanne, ne garde pas silence quand nous sommes en réunion. Parce que chaque fois, quand tu parles, il y a toujours quelque chose que Dieu dans mon cœur et ça fait ce que la maison puisse aller de l'avant. Un jour, j'ai même une lettre où il a écrit à Nairobi. Il a dit, cette femme, quand elle garde le silence dans le bureau, rien ne va. Mais quand elle ouvre sa bouche, même pour 2 minutes, on a une vision qui naît de ses paroles. Alors, c'était une évaluation, on évaluait tous les agents. Parmi les conseils qu'on demande à notre hiérarchie, à cette femme de ne pas garder silence. Mais quand il s'agit de parler dans la réunion, qu'elle parle. C'est l'unique faiblesse que je vois en elle. Quand elle est fâchée, elle ne parle pas et rien ne marche. Mais quand elle parle, tout va de soi. Cette lettre-là, je ne peux pas la déchirer. Je la garde dans mes archives. Là où il y a mes diplômes, j'ai toujours mis ça là-bas. Pourquoi? Parce qu'il m'avait révélé une force que j'avais en moi. Et j'avais remarqué ça, même dans ma famille, même dans le bureau, et partout où je peux aller, où on m'appelle. Si je garde le silence, il y a quelque chose qui me tourmente dans le cœur. Mais il suffit que je place un mot pour que les autres développent et se développent et ça continue ainsi. Que Dieu nous aide à travers l'écoute de sa parole, que nous puissions avoir des oreilles qui sont attentives à la volonté de Dieu. Et que nous puissions agir quand il est faux. Lydie n'a pas reçu celle. Elle a reçu quand elle s'est associée à Paul. La Tsunamite n'a pas reçu celle. Elle a reçu quand elle s'est associée à Élisée. Déborah n'a pas reçu celle. Elle a reçu quand elle s'est associée à Barak et aux 10 000 militaires. Que Dieu fasse de nous un peuple, des élus associés, collaborateurs, complices, pour la gloire de son nom. Alléluia. Je retourne sur Déborah pour dire ceci. Israël avait 10 000 hommes et n'avait pas d'armes sophistiquées. Sisera avait 900 chars de fer et avait des alliés de tout genre. Ils étaient très forts. Qu'est-ce qui a fait la différence entre ces deux armées? Sisera et Yabim se sont associés aux hommes. Déborah et Barak se sont associés à Dieu. Que Dieu nous amène à faire de lui notre associé principal verra sa gloire. Cette gloire va donner son honneur à Dieu et cette gloire appellera des hommes et des femmes. À faire quoi? À se réjouir de notre présence et de notre absence et à vouloir toujours nous écouter et pour avancer et faire de grandes choses. Ce n'est pas la multitude qui change les choses, mais c'est la qualité du temps, de la volonté et du choix. Choisissons d'être dans les restes qui sont associés à Christ pour voir la grandeur de Dieu. Nous terminons en disant ceci. La maturité spirituelle s'octroie quand il y a choc d'idées et échange de pensées. Choc d'idées et échange de pensées pour les chrétiens, c'est dans les études bibliques, c'est dans les temps des moments de partage de la parole de Dieu et en venant à l'église. La maturité ou la libération des chrétiens ne s'octroie pas en dehors, mais ça s'octroie à l'écoute de la parole de Dieu au pied de Jésus. Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part, que personne ne pourra nous ravir. Choisissons la bonne part d'aller au pied de Jésus. En étant au pied de Jésus, Dieu nous relève. Marie, aujourd'hui, on parle d'elle. Pourtant, c'était une prostituée. Mais quand elle est allée au pied de Jésus, Jésus a changé sa vie. Jésus a changé son témoignage. Aujourd'hui, on parle d'elle comme une femme de référence. Que Dieu nous aide à aller aussi apprendre à ses pieds, pour que nous soyons des hommes et des femmes de référence. Quel amour sincère, la complémentarité, le pardon, la détermination nous caractérise en tant que disciples de Christ. Ainsi nous serons engagés, ainsi nous serons combatifs, ainsi nous allons honorer Dieu, ainsi les hommes vont se plaire de notre présence. Que notre Dieu nous aide et que notre Dieu bénisse sa parole. Amen.